Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette rencontre dédicace avec notre invité du jour, Frédéric Ploquin. Son visage doit vous être familier puisqu'on le voit en tant qu'expert assez souvent sur les bonnes chaînes télé, hein, il en existe quand même. Hein. Donc son dernier ouvrage, il en a de multiples, hein, si vous avez regardé un peu qui il était, il en a de multiples, je ne vais pas tous les citer. Hein, mais c'est le dernier qui nous intéresse. Alors, Frédéric Ploquin est, que je ne me trompe pas, journaliste de formation, grand reporter, spécialiste de la police et du grand banditisme, et puis il fait partie des spécialistes autorisés, comme on dit, dans nos universités. Hein. Alors, son livre est vraiment passionnant parce que, bon, j'ai un peu regardé, il n'y en a jamais eu d'écrit aussi approfondi sur tout ce qui est... tous ces réseaux que l'on trouve en rapport avec la police, mais aussi dans notre société de façon générale. Il balaye un peu de la résistance à nos jours, quoi, finalement, à toute cette mission de la police qui a aussi besoin des réseaux pour exister, pour aussi parfois mener à bien des enquêtes. Hein. On a eu des grandes périodes, il le cite, toutes celles, cette police, ces familles qui finalement, j'aime bien le mot qu'il emploie, hein, ces familles qui se sont créées donc sur manière géographique, la Corse évidemment, hein, où il est toujours très difficile de délimiter ce qui est légal ou ce qui l'est pas, hein, la Corse. Également famille politique. Là, on sait très bien que la politique a souvent des liens plus ou moins autorisés avec les familles, puisque j'aime bien cette expression. Hein, il nous rappelle le RPR, le PS aussi, hein, le clan Pasqua, etc. Également la franc-maçonnerie, c'est un réseau fort, bien évidemment, dans la police, mais également ailleurs. Hein, et Clermont est une ville importante de franc-maçonnerie, on le sait. Hein, plus récemment, comme vous le dites, le sexe, puisque, j'allais dire, ce sexe irradie un petit peu toutes les familles, hein, et une partie de notre société. Alors cet ouvrage fait un balayage très intéressant sur finalement la place Beauvau. Hein, la place Beauvau, c'est pas le cœur de la République, mais c'est un organe important de la République, hein, où il y a eu pas mal d'affaires. Alors j'ai vu certaines critiques où on disait que Frédéric Ploquin, dans son ouvrage, était contre la police. Pas du tout. Je pense que ses autres livres ont toujours montré qu'au contraire, il travaille avec pas mal de policiers et il essayait de nous montrer ce qu'il en était, ben, évidemment, de ces affaires où il y a des ripoux. Il y en a dans la police, il y en a aussi ailleurs, hein, c'est une évidence. Hein. Mais les policiers n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. J'ai remarqué ça. Hein. Ils n'aiment pas trop qu'on parle d'eux. Quand on n'a rien à cacher, on doit accepter qu'on parle de soi. Hein. C'est moi toujours le principe qui a toujours été le mien. Donc voilà, toute une série d'analyses sur ces affaires qui ont un peu jalonné l'histoire de la police en France, de la résistance à nos jours, et qui est balayée 40 ans de coups tordus dans la police. J'ai vu ça dans une analyse. Hein, il fait un peu cette analyse-là, mais des coups tordus contre la police, des coups tordus aussi de la police. J'allais dire que je trouve que la bascule est toujours bien faite dans cet ouvrage. Donc voilà, il va nous présenter un peu son ouvrage, il va nous présenter des choses qu'il a dites, des choses qu'il a peut-être pas dites. Souvent les auteurs en gardent un peu sous la pédale, comme en Formule 1 ou en vélo. Et donc, et quand à la fin, il y aura évidemment des questions, hein, des questions en lien avec l'ouvrage, mais aussi des questions d'actualité. Hein, je vois un de mes amis en fond de la salle, ancien magistrat, qui se gênera pas pour poser des questions, un ancien procureur, on connaît bien le milieu de la police aussi. Donc voilà, je vais lui laisser la parole en le remerciant à nouveau d'être parmi nous. Et ne vous gênez pas pour poser toutes les questions que vous voudrez, je pense qu'il y répondra. Voilà.
Bonjour, merci d'être là. Donc la première chose à dire pour confirmer ce qui vient d'être dit, c'est qu'effectivement je ne porte pas un regard idéologique sur la police, mais vraiment un regard journalistique. Ça fait à peu près 40 ans, oui, 40 ans maintenant que j'observe la police, que j'essaie de la connaître, et j'estime que dans une démocratie, on a besoin justement de journalistes qui soient un peu spécialisés sur cette question et qui soient capables de pousser la porte des commissariats, parce que la police, elle a tendance à se refermer toujours sur elle-même, elle a tendance à vouloir vivre en autarcie, à pas vouloir s'expliquer, se justifier. Moi, j'ai toujours été attiré dans le métier de journaliste par cette maison-là, précisément parce qu'elle était fermée et que j'avais l'impression d'aller du côté de l'opaque de la République et d'un certain nombre de choses qui ne se disaient pas, qui ne se savaient pas, etc. Et donc j'ai ressenti beaucoup de plaisir journalistiquement à explorer cette maison et sans porter, parce que je pense que si on porte un regard idéologique, on est contre ou on est pour la police, par principe, on peut rien raconter, rien comprendre de ce qui s'y passe. Et je trouve qu'aujourd'hui, il manque effectivement de journalistes qui aient suffisamment de contact au sein de cette maison, de la police, pour ne pas finalement être manipulé par elle. C'est-à-dire pour, en gros, avoir suffisamment de recul pour traiter et entendre ce qui s'y passe et le décrypter correctement. Et finalement, moi, je me suis rendu compte d'une chose, c'est que les policiers eux-mêmes étaient suffisamment... Enfin, il y avait suffisamment de policiers intelligents dans cette maison pour comprendre et pour accepter la critique. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la critique n'est pas systématique, vous n'avez pas une posture anti ou pour la police, moi j'ai été surpris de voir que, je veux dire, quand quelque chose ne va pas, finalement, on peut faire son métier de journaliste. Moi, j'ai commencé dans les années 1980, où il y avait énormément, beaucoup plus qu'aujourd'hui, de ce qu'on appelait des bavures. Et je me souviens, j'ai été très surpris. Moi, à l'époque, j'avais 25 ans, et j'étais très, très surpris de voir que, quand on enquêtait comme très jeune journaliste sur cette question des, entre guillemets, bavures, c'est-à-dire en gros des morts qui n'auraient pas dû avoir lieu, de personnes mortes sous les balles de policiers, de manière... fortuite, comme ça arrive encore quelquefois aujourd'hui. Ce qui m'a surpris, c'est de voir que dans la police, j'avais, en tant que journaliste, systématiquement des explications, un retour et des policiers qui souhaitaient que la transparence soit faite. Et ça, c'est plutôt... ça a été une bonne surprise. C'est-à-dire que vous vous dites, de l'extérieur, vous vous dites, mais comment est-ce qu'on peut... avoir suffisamment d'informations pour raconter une histoire de corruption, de ripoux, de choses qui dérangent la police. Eh bien, moi, ce qui m'a rassuré, d'une certaine manière, du point de vue du fonctionnement de cette maison et finalement de la démocratie derrière, c'est qu'il y avait toujours des policiers qui avaient envie de dire la vérité, de raconter ce qui s'y passait et qui avaient envie que ça se sache. Même. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt satisfaisant. Et petit à petit, comme ça, au fil des années, je me suis construit donc un vrai, moi aussi, un réseau, finalement, au sein de la police, qui fait que à chaque fois qu'il y avait un événement, j'étais capable, en mesure, de le décrypter. Et ça, je trouve que c'est notre rôle, ça fait vraiment partie de notre rôle de journaliste. Et ce qui est rassurant, c'est que donc, il y ait dans la maison même, pas uniquement des gens qui défendent une espèce d'omerta éternelle qui ferait qu'on ne devrait pas savoir ce qui se passe derrière la porte du commissariat. En fait, on doit savoir dans une démocratie, en tout cas, ce qui se passe derrière la porte du commissariat, de l'hôtel de police. On doit y avoir ces entrées et c'est ce qui m'a permis donc... c'est pour ça que je débouche aujourd'hui, 40 ans plus tard, sur ce livre qui est un peu une histoire de la place Beauvau à travers ses réseaux. Vous disiez, oui, la place Beauvau, c'est un peu le cœur battant de la République, d'une certaine manière. Oui, en tout cas, la police et la gendarmerie sont des piliers, les forces de l'ordre sont des piliers de la République, sans lesquels ça ne fonctionnerait pas. Donc oui, c'est une... je ne sais pas si c'est le cœur de la République, mais je pense que c'est un espace, la place Beauvau, où il se passe tous les jours d'ailleurs quelque chose, tous les jours un événement, tous les jours... Je veux dire, vous n'ouvrez pas votre poste de radio ou de télévision sans entendre la police a fait ceci, la police a fait cela. Elle est mise à toutes les sauces, on en parle tout le temps. Elle est ultra sollicitée aussi, et tous les jours, le gouvernement affiche une urgence à confier à la police un nouveau dossier prioritaire. Alors, je ne sais pas comment ils font, parce que le lundi, la priorité, ce sont les violences, pourquoi pas, faites aux femmes. Le mardi, c'est la lutte contre les stupéfiants. Le mercredi, c'est le terrorisme. Le jeudi, c'est la sécurité routière. Enfin, finalement, on se demande un peu comment cette machine et comment ces individus arrivent à suivre alors qu'ils sont comme ça sollicités en permanence à tout bout de champ, qu'on leur rassène tous les jours des priorités. Donc, en réalité, pour ne pas s'effondrer, en réalité, je pense que la police, et c'est pour ça que j'ai appelé ce livre « Les réseaux secrets de la police », c'est que la police est obligée de se défendre un petit peu face à cette sollicitation permanente, et elle est organisée, effectivement, vous citiez le mot de famille, c'est une... péjorativement, on parlerait de corporatisme, mais de manière plus neutre, on pourrait parler effectivement de famille, c'est-à-dire de gens qui... de maisons qui sont obligées... C'est une maison de la police qui est obligée de se serrer les coudes en permanence, à la fois face aux sollicitations des politiques dont je parlais, et face aussi aux attaques répétées qui sont souvent pas forcément fondées et totalement idéologiques, face auxquelles ils sont obligés un peu de faire le dos rond, sans compter qu'elle n'est pas seulement attaquée sur le plan idéologique, elle est aussi attaquée en vrai dans notre société aujourd'hui contemporaine, notamment que ce soit par les criminels ou plus récemment par les terroristes. Et donc à partir de là, les policiers sont... d'une certaine façon, un peu enclin, un peu amené, un peu conduit à se, on va dire, à se couper du reste de la société. Ils ont du mal à être dans la société à cause de tout cela. C'est-à-dire que si vous êtes policier, que vous avez des amis qui font un boulot lambda, alors bon, vous pouvez soit vous allez être sollicité en permanence parce que vous êtes peut-être miraculeusement capable de faire sauter une contravention, parce que on va pas vous mener vous n'allez pas pouvoir avoir de relations sociales normales comme n'importe qui, en fait vous êtes tout de suite marqué. Et à partir de là, moi, c'est une des explications que je donne à la prégnance de ces réseaux et au développement et à la force de ces réseaux dans la police. C'est qu'en fait, les policiers font un peu le dos rond, d'une certaine manière, face à toutes ces attaques, face à toutes ces critiques. Et ils s'organisent entre eux. Et par ailleurs, socialement, ils sont un peu coupés du reste de la société. D'ailleurs, parfois, on a eu dans l'histoire des pouvoirs, des majorités politiques qui avaient... intérêt, pour des raisons X ou Y, parce que le maintien de l'ordre était fondamental à certaines époques de l'histoire. Je parle de toute la période gaulliste, par exemple, où le policier a été, coupé de la société, et ça arrangeait le pouvoir. C'est-à-dire qu'en fait, il fallait pas que les policiers deviennent trop, enfin, soient finalement trop proches de ces citoyens, que parfois il faut aller matraquer dans des manifestations, par exemple. Je veux dire, ça c'est l'époque, la grande époque où le maintien de l'ordre est ici important. Donc, ce que je veux dire, c'est que il y a des pouvoirs qui ont favorisé un petit peu le fait, à certaines époques, que les commissariats soient des forteresses, des châteaux forts, et qu'il fallait pas, il fallait peut-être limiter les rapports entre les policiers et les citoyens. Donc à partir de là, c'est pas surprenant, si vous voulez, qu'il y ait toutes ces familles. Alors, je vais en citer quelques-unes. Effectivement, ici, je ne vois pas pourquoi ce serait dommage de ne pas parler du rugby. Mais par exemple, j'ai été surpris de voir à quel point les policiers rugbyman formaient une famille dans la police et formaient une famille sur le long terme. Et on a vu à une époque un ancien rugbyman de la police devenir directeur général, patron de la police. Et lui... au moment où vous formez votre équipe, c'est ça, vers qui vous vous tournez. Vous vous tournez vers des gens que vous avez connus, en qui vous avez confiance. Et il n'y a rien de tel qu'un terrain de rugby pour nouer des relations sur le long terme et de confiance avec quelqu'un à qui vous avez passé la balle et qui vous l'a repassé, etc., et qui vous a défendu. Et je trouve que l'image de cette maison police équipe du rugby, elle est assez juste parce qu'il faut faire corps, il faut faire groupe, il faut tous marcher dans le même sens, enfin, c'est un peu ça. Et donc, premier réseau que j'évoque comme ça, c'est le réseau des rugbymen, il est beaucoup plus important qu'on ne croit. Alors, effectivement, à côté de ça, vous avez historiquement, si vous reprenez toute l'histoire de la place Beauvau depuis un demi-siècle, vous avez aussi tous les réseaux politiques. Quand vous êtes... Bon, la droite a longtemps été majoritaire au pouvoir en France à l'époque du gaullisme. Cette majorité, à l'époque, considérait que la police, finalement, lui était acquise, d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'on a eu pendant très longtemps un pouvoir gaulliste qui a considéré que la police, c'était elle, c'était la police. Et finalement, il n'y avait même pas besoin de trop s'occuper d'eux. Et je crois que c'est dans cette époque-là, dans les années 60, 70, qu'on a laissé un peu les commissariats l'immobilier, par exemple, l'immobilier de la police a été complètement désaffecté. Et on s'est retrouvé au début des années 80 avec des commissariats sales, pourris, mal foutus, etc. Mais je pense que c'est pas de la négligence, c'est que je pense que la majorité qui avait dirigé pendant des années considérait que la police n'avait pas besoin de luxe. Même à la limite, il fallait l'entretenir dans cette sorte de misère. Je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là, dans cette misère, on va dire, notamment immobilière. Donc ça, quand la gauche arrive au pouvoir en 1981, là, si on prend les choses dans l'ordre, la gauche est un peu, pas pour François Mitterrand, la police c'est pas forcément une amie, quoi. C'est au contraire, c'est les renseignements généraux qui ont suivi les socialistes pendant des années. Il y a une espèce de coupure et il sait pas trop comment s'y prendre. Et c'est là qu'apparaît l'importance des réseaux francs-maçons. C'est que à partir du moment où vous avez la gauche qui arrive au pouvoir en 1981, qui n'a pas de réseau naturel dans la police, qui se méfie de la police à cause notamment du service d'action civique, du SAC, qui était la garde prétorienne du gaullisme et qui a beaucoup recruté et chez les voyous et dans la police. C'est un peu paradoxal, mais c'était comme ça à l'époque. Donc on avait des voyous qui circulaient et des policiers qui circulaient avec des cartes bleu, blanc, rouge, du SAC, etc. Donc quand la gauche arrive au pouvoir, il est normal qu'elle se méfie de cette institution. Et donc le seul endroit finalement où cette gauche-là, à l'époque c'est Gaston Defferre qui est ministre de l'Intérieur au début des années 80, le seul endroit où ils arrivent à puiser des zones de confiance, c'est la franc-maçonnerie. Et de fait, je ne sais pas si tout le monde sait comment fonctionne la franc-maçonnerie, mais en gros, il y a deux grandes... il y en a plus que ça, mais il y a deux grandes obédiences, une qui est plutôt conservatrice, une qui est plutôt, on va dire, progressiste. Donc d'un côté, la GLNF, la Grande Loge Nationale Française, et de l'autre côté, le Grand Orient de France. Et la gauche, quand elle arrive au pouvoir, va aller recruter des chefs de la police du côté du Grand Orient de France, parce qu'en fait, ils n'ont pas de liste de noms, ils n'arrivent pas avec une liste de candidats, contrairement à Charles Pasqua quand il va revenir en 1986 au pouvoir, qui lui a déjà, il a déjà toute la liste de tous les commissaires de confiance, parce qu'ils sont encartés chez lui. Donc cette prégnance de la franc-maçonnerie, elle remonte à cette époque-là et elle dure jusqu'à aujourd'hui. Vous avez donc une équipe à l'époque du premier septennat de François Mitterrand qui se met en place Beauvau sur cette base-là. Et donc il est recruté, un directeur central des renseignements généraux, recommandé par le Grand Orient, etc. Et c'est comme ça que ça se met en place. Et finalement... quand la droite va revenir au pouvoir, le balancier va repartir dans l'autre sens et ça va être l'autre obédience qui va plutôt dominer. Et ça m'a intéressé c'est une histoire qui est peu connue en réalité. Ce sont vraiment les dessous de la place Beauvau qui sont assez peu connus et qui sont là racontés, ce qui moi m'intéressait, par les principaux concernés. C'est-à-dire que moi je suis allé voir effectivement les responsables de toutes ces loges et pour essayer de comprendre comment ça fonctionnait, parce que le livre sur ce sujet-là n'existait pas encore, personne n'avait vraiment raconté, et c'est pas un tabou. Et à partir du moment où vous allez les frapper à leur porte et que vous posez des questions sensées, ben ils vous répondent. Et donc j'ai pu raconter de l'intérieur comment tout cela avait fonctionné jusqu'à aujourd'hui. Alors moi j'estime, enfin c'est ce que me racontent les policiers, ce que je raconte dans ce livre, qu'il y a Il y a énormément de bons côtés à ces réseaux-là, parce qu'en fait, l'avantage de la franc-maçonnerie, c'est notamment qu'elle véhicule en général une certaine idée de la République, quoi, et que tous les policiers qui étaient plutôt que j'ai pu rencontrer, qui étaient dans l'obédience ou l'autre, étaient très structurés mentalement en tant que citoyen, défenseur des valeurs républicaines. Et ça, je trouve que c'est le bon côté des choses. Ça donne une espèce d'armature pédagogique à des fonctionnaires de police qui, lorsqu'ils ne sont pas commissaires, n'ont pas eu la chance de faire des grandes études et qui, à un moment donné, vont s'élever, on va dire, intellectuellement. Et ça, je trouve ça, c'est vraiment les bons côtés de la franc-maçonnerie dans la police. C'est cela. Après, évidemment, au-delà de ces bons côtés, qui fait que ça permet aux policiers en difficulté aussi de se raccrocher à quelque chose, de se raccorder. J'utilise souvent l'image de la cordée des alpinistes. Vous savez, la franc-maçonnerie dans la police, ça sert aussi à ça. C'est-à-dire, vous avez le premier qui assure les autres. Et donc, si vous avez un souci, et c'est quand même assez fréquent dans la police, malheureusement, vous ne pouvez pas forcément compter sur vos chefs pour vous défendre, bah, vous vous tournez vers ses amis, vers ses frères, entre guillemets, qui vous défendent. Donc ça aussi, je trouve que c'est un des bons côtés. C'est une espèce de garde-fou intellectuel et moral. Après, à côté de ça, un système d'entraide important. Chacun sait qu'il y a énormément de... C'est un métier, la police, où il y a beaucoup de suicides. Donc de gens qui vont jusqu'au bout de leur isolement psychologique, moral, et qui mettent fin à leur jour. Il y a énormément de cas. En ce moment, c'est pas un sujet dont on parle, mais il y a de manière récurrente énormément de cas. Et je pense que, je veux dire, le fait d'appartenir à des sous-familles permet d'organiser sa survie et de passer le cap et de se faire repérer si à un moment donné vous n'allez pas bien. Donc ça, c'est là, je décrypte tous les côtés positifs, et à côté de ça, il y a effectivement tout ce que ces réseaux maçonniques peuvent amener comme dérive. Et là, vous allez vite comprendre, c'est à partir du moment où vous êtes mettons, vous êtes commissaire de police, vous êtes muté assez souvent, donc vous arrivez dans une ville comme Clermont-Ferrand ou autre, où vous ne connaissez personne, vous arrivez chef de la police, vous avez un pied dans la franc-maçonnerie, vous allez tout de suite essayer de voir ce qui se passe localement, vous intégrer là-dedans, et alors on voit très bien que ça peut vous éclairer, ça peut vous aider à savoir un peu où vous êtes, ça peut vous amener des informations, ça peut vous faire comprendre une ville, ça peut vous amener des relations sociales, tout simplement aussi. Mais à côté de ça, et là, il y a un certain nombre de cas comme ça dans l'histoire qui m'ont marqué, à côté de ça, il y a forcément, tôt ou tard, enfin, pas forcément, ça dépend comment vous êtes blindé moralement, mais forcément, à un moment donné, vous allez comprendre pourquoi ça peut déraper. Si, dans ces réunions maçonniques, ça se termine souvent de manière tout à fait amicale par des repas où on boit un coup ou deux ou trois, enfin, où on discute. Et là, vous êtes, vous, policier, puis juste à côté, il y a un chef d'entreprise, et puis après, il y a peut-être un juge d'instruction, et puis un peu après, il y a le pharmacien, puis après, il y a... Enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, et c'est ça le danger, le risque, c'est que vous, policier, vous pouvez être approché par un, entre guillemets, frère qui, au nom de cette qui va abuser de ce lien de fraternité et qui va vous dire écoutez là tu peux pas me renseigner là, tu peux pas me donner, j'ai pas, et puis qui va commencer à poser des questions sur une enquête en cours, sur pourquoi pas des écoutes téléphoniques en cours sur tel ou tel, sur des choses comme ça. Et là, si vous êtes pas très solide, vous pouvez craquer. Soit à titre amical, soit encore pire, mais ça c'est le niveau au-dessus, vous pouvez même, et ça je raconte énormément de cas comme ça, vous pouvez commencer à monnayer les informations dont vous disposez. Il y a un paquet de... j'ai identifié un paquet de... mais plutôt à un haut niveau de la hiérarchie de commissaires de police qui avaient accès à tous les fichiers, etc., qui ont commencé à un moment donné à vendre des informations à des amis comme ça, chefs d'entreprise, et sur les affaires politico-financières en cours, par exemple. Ça peut être dramatique, ça peut avoir des conséquences, mais pas seulement. Ça peut être sur des affaires de mœurs, ça peut être sur des affaires, des enquêtes Oui, de mœurs, pourquoi pas. Et ça peut être aussi, enfin, dans tous les cas, ça peut être extrêmement grave parce que vous avez des policiers qui, sans se rendre compte, à un moment donné, s'égarent, oublient, donnent une info qui va être exploitée aussitôt. Et on se retrouve au final avec, par exemple, un policier à Marseille que j'avais identifié qui donnait des informations sur toutes les descentes, les contrôles dans les boîtes de nuit, les bars, etc. Et puis ces informations qu'il croyait donner à des amis, finalement, se retrouvaient au final entre les mains de véritables voyous, de gangsters, en fait, qui s'en servaient pour se protéger, se prémunir des atteintes de la police. Donc on voit bien que cette espèce de perméabilité comme ça peut causer des dégâts très importants dans la société et avoir un impact sur les affaires. Donc il y a comme ça un certain nombre de policiers qui ont été interpellés, qui se sont retrouvés traduits en justice pour avoir monnayé ou bien donné gratuitement, les deux sont possibles, des informations sans se rendre compte forcément de la portée que ça avait. Donc ça, c'est le revers de la médaille. C'est, je parlais d'une cordée, c'est quelque chose, une image sympathique, une cordée d'alpiniste, ça se soutient. C'est vrai que les policiers sont beaucoup critiqués, que même, je ne suis pas allé au bout tout à l'heure de ce que je voulais dire sur les menaces terroristes, mais on a quand même, à partir de 2015, vu des policiers qui ont commencé à cesser de pouvoir dire à leurs voisins le métier qu'ils exerçaient, qui ont commencé à dire à leurs enfants, bon, ben, à l'école, tu peux éviter de dire quel métier fait ton papa ou ta maman. Enfin, on a eu ce mouvement-là qui a isolé encore plus les policiers au sein de la société. Et donc, dans cet isolement, il y avait encore plus ce besoin de se retrouver entre eux en confiance. Et quand on est avec les frères en loge, ben on sait qu'on est accepté en tant que policier, qu'il n'y a pas ce souci-là, on n'est pas en danger, donc on est rassuré. Et c'est là où on peut, à un moment donné, je pense, baisser la garde, précisément, parce qu'au bout de l'isolement imposé par la criminalité, par le terrorisme, on se retrouve un peu coupé du monde, un peu coupé des autres, un peu coupé des autres citoyens, et finalement on a besoin de ce lien. Voilà. Donc ça, c'est ça concerne les on va dire l'importance des réseaux maçons dans la police. Et après Il n'y a pas que ça. Ça croise. En fait, les réseaux francs-maçons, comme je le disais tout à l'heure, croisent beaucoup les réseaux politiques. Et vous avez des écuries comme ça qui se forment. Et quand on a eu, entre le début des années 80 et aujourd'hui, beaucoup d'alternance comme ça, bah, quand il y a une alternance, le grand chef, celui qui était au sommet de sa gloire, il peut se retrouver, on lui coupe la tête, on le renvoie dans un petit poste comme ça. C'est assez dur en général pour eux. C'est le spoil de système à l'américaine. Donc on vous renvoie, alors que vous êtes un patron, on vous envoie en bas. Et là aussi, vous êtes bien content de pouvoir vous raccrocher à la franc-maçonnerie. Et je raconte des cas comme ça de policiers de droite ou de gauche qui, en fait, se sont servis de la franc-maçonnerie comme une espèce de coussin, comme un airbag, on va dire, au moment d'atterrir, de mal atterrir, de se casser la figure, d'être écarté, d'être mis au banc. Tout d'un coup, ça fonctionne comme un airbag. Ça veut dire que vous pouvez aller voir quelqu'un qui est de l'autre bord, pas du tout de votre camp politique, mais qui, par la fraternité maçonnique, va venir à votre secours et aller voir le ministre ou le cabinet du ministre. « Ouais, mais bon, lui, on peut peut-être le préserver, etc. » Donc ça sert aussi de, on va dire, curieusement, la maçonnerie dans la police sert d'amortisseur social. Un peu comme les syndicats. Et d'ailleurs je rappelle quand même que la police est une des administrations, probablement l'administration française la plus syndiquée qui soit, encore plus que l'éducation nationale, pour les mêmes raisons. Finalement, c'est une administration ultra syndiquée, précisément parce que on a affaire à des fonctionnaires isolés qui ont besoin isolés, malmenés par une hiérarchie qui est souvent très très dure, par un métier qui peut vous pousser à l'erreur à tout moment, qui peut vous mettre en difficulté parce que vous allez, sous le coup de la peur, sortir une arme, pourquoi pas vous en servir, vous retrouver en difficulté. Et là, je peux vous assurer que si vous êtes fonctionnaire dans cette situation-là, vous êtes vraiment malmené, vous retrouvez, parce que vous avez fait usage de votre arme à feu, de toute façon obligé de vous expliquer que ces policiers vivent souvent très mal le fait de se retrouver à ce moment-là devant un juge, et pourquoi pas en garde à vue, et que là, là aussi il y a besoin de ces amortisseurs, et que le syndicat joue ce rôle. Mais les syndicats sont eux aussi d'ailleurs, entre guillemets, un repère, justement, de frères et de maçons. Ça se croise, en fait. Ces deux, voilà, les syndicats et les obédiences maçonniques se croisent. Et souvent, on a dans les syndicats des gens qui sont précisément très implantés dans les fraternelles. Je veux dire, la fraternelle, c'est je sais pas si vous savez ce que c'est, mais c'est en gros, il y a des grandes obédiences dans la maçonnerie. Et au-dessus, il y a des fraternelles où, en fait, vous vous retrouvez dans des réunions, quelle que soit l'obédience. En fait, on va dire toute idéologie, tout parti pris confondu, vous vous retrouvez autour d'une table et là vous pouvez discuter de l'avenir de tel ou tel. Et c'est la fraternelle du ministère de l'Intérieur que je décris, dont j'ai rencontré un certain nombre d'anciens chefs, on va dire, enfin c'est pas le mot exact, mais d'anciens maîtres, enfin d'anciens représentants, on va dire. Cette fraternelle, elle a souvent servi à faire avancer des dossiers. Pourquoi pas faire avancer des réformes dans la police, à mettre les gens autour d'une table. Et elle a aussi permis de sauver des cas de gens qui avaient besoin, à titre personnel, absolument, vous avez besoin d'une mutation, pas forcément d'une promotion. Mais il y a aussi ça qui se joue dans ces réseaux-là. Ce sont les promotions qui vous permettent de franchir un grade. C'est extrêmement important dans la police, qui est quand même très hiérarchisée. Aussi hiérarchisé que la franc-maçonnerie peut l'être, d'ailleurs, ce qui veut dire, ce qui à mon avis est une des explications pour lesquelles les policiers se sentent aussi bien dans ces obédiences, c'est ça, c'est qu'ils se retrouvent avec, pareil, avec la même pression hiérarchique, avec des obligations, avec un grand maître, un ceci, un cela. Bon, je ne veux pas raconter comment ça fonctionne exactement, mais chacun le découvrira, mais il y a quelque chose d'assez similaire dans l'organisation sociale de ces obédiences et le fonctionnement de la police, qui fait qu'ils se retrouvent chez eux, qu'ils sont un peu comme à la maison quand ils passent dans ces structures. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi, j'ai parlé tout à l'heure de la famille rugby. Longtemps aussi, on a eu dans la police la famille Pied-Noir, à cause de ce qui s'est passé après la guerre d'Algérie, où on a un certain nombre de pieds noirs qui ont intégré, de fait, qui rapatriés ont intégré la police et qui ont formé une véritable, on va dire, famille, encore une fois, au sein de la police, et qui jusqu'au bout, bon, aujourd'hui ils sont de moins en moins nombreux, mais à cause ils sont partis à la retraite, mais ils ont formé une famille très très puissante. Vous avez aussi forcément l'émergence, ça a été un long combat, mais l'émergence du, entre guillemets, du lobby féminin des femmes dans la police. Ça, c'est pas quelque chose qu'on connaît, mais que je raconte là sur un chapitre. C'est en gros comment, à un moment donné, les femmes, une poignée au départ de chefs dans la police, ont dit bon ben, c'est pas normal qu'on n'ait pas les mêmes qu'on n'ait pas accès au même grade que les hommes. Il va falloir qu'on s'organise. Et ces femmes, il y a une dizaine d'années, se sont organisées un peu en fraternelle féminine au sein de la police, et ont commencé à faire des réunions, et sur le modèle de la franc-maçonnerie, ont créé une espèce d'association de sœurs, entre guillemets, comme elles disaient. Et elles ont réussi, grâce à ça, à faire du lobbying, à aller démarcher un premier ministre de l'Intérieur qui leur a dit « mais non, il n'y a pas de problème », etc. Puis un deuxième qui a commencé à les écouter, puis un directeur général de la police qui a commencé à dire « ben oui, effectivement, il y a peut-être un souci ». Donc elles ont été au début dénigrées, et puis après entendues et écoutées. Et on peut dire qu'aujourd'hui, c'est assez surprenant quand vous faites le compte du nombre de femmes qui ont atteint des niveaux très élevés dans la hiérarchie policière, il y en a énormément. Je veux dire, beaucoup. Enfin, vous imaginez pas à quel point, je veux dire, le patron des. Que le simple fait que le patron des CRS aujourd'hui soit une femme peut surprendre un certain nombre de personnes. Mais le patron de l'office, l'OFAST, comme on dit, qui s'occupe des stupéfiants, est aussi une femme. Le patron de la police des polices de l'IGPN, donc, est aussi une femme aujourd'hui. Et si je pourrais vous en citer 20, 30, en réalité, les femmes ont réussi, grâce justement à ce lobbying, on va dire, à se faire entendre, à se faire une place dans une maison où il n'y a pas si longtemps, moi, quand j'ai commencé à écrire sur la police, c'était vraiment, il y avait des affiches partout, la police, un métier d'homme, et c'était que ça. Hein. Et c'était vraiment très très fort, cette culture du machisme, de l'homme fort, l'homme puissant, l'homme policier. Elles ont réussi à ébrécher cette image et à se faire une place, et ça se... Voilà, ça n'avait pas été raconté encore, et donc quand je me suis rendu compte de ça, j'ai dit, allez, je vais faire un chapitre sur ce sujet, parce que c'est je pense que ça surprendra beaucoup de monde, quoi, si vous voulez, la manière dont elles s'y sont prises. Donc il y a ça, et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a aussi, il y a autre chose dont il faut parler aussi, c'est la police, elle n'est pas, contrairement à ce qu'on croit, elle n'est pas une, elle est multiple. Et vous avez au sein de cette, en dehors même de ce dont je viens de parler, des options idéologiques, des obédiences qu'on choisit, des sports qu'on pratique, etc., vous avez plusieurs grandes familles, c'est-à-dire la famille, on va dire, de la sécurité publique, dont de la police en tenue, c'est un monde à part, la famille de la police judiciaire, c'est encore un univers à côté de cela, plus, on va dire, les CRS qui forment aussi une véritable famille entre eux et qui, quand vous plongez dans le monde des CRS, vous vous rendez compte, je veux dire, c'est comme une famille, quoi. C'est quelque chose qui fonctionne avec des us et coutumes, des façons de faire, un rapport au drapeau, un rapport... Et puis des hommes extrêmement soudés, et des femmes aussi, parce qu'il y a des femmes CRS extrêmement soudées entre eux, parce qu'en fait, le CRS, il passe quand même un tiers de sa vie sur les routes, déplacé ici et là. Donc il faut bien... Il y a une espèce de fraternité très très forte qui s'installe à l'intérieur des compagnies républicaines de sécurité, que je raconte aussi. Mais pareil en PJ. En PJ, c'est aussi des habitudes, une façon de fonctionner. La police judiciaire, ce sont des gens qui sont pas en tenue, justement, et qui font les enquêtes, l'investigation policière. Et eux aussi ont des, eux aussi forment une famille très très forte, et c'est surprenant. Partout où vous allez, vous avez l'amicale des anciens de la brigade des mineurs, l'amicale des machins, et partout ils continuent 20, 30 ans, même après avoir raccroché, ils continuent à se voir entre eux. C'est très étonnant, cette solidarité, elle est très puissante, et à mon avis elle est très très importante, cette solidarité au sein de la police. Par équipe comme ça. Donc vous avez vraiment des sous-familles qui résistent à tout, qui résistent au temps et qui font que ces policiers voilà, se serrent les coudes. Et comme je disais, voilà, bon côté, ils peuvent s'entraider, mauvais côté, il y a nécessairement une forme de corporatisme, mais ça leur permet aussi de défendre leur beefsteak, d'obtenir des choses du gouvernement, des rallonges de salaire. Et puis finalement, ils ont quand même obtenu, sur ces 40 dernières années, une espèce de droit à travailler dans des locaux décents. Parce que je rappelle ce que je disais tout à l'heure, les locaux dans lesquels travaillaient les policiers ont longtemps été totalement indécents. Je veux dire, moi qui fréquente énormément les commissariats, les hôtels de police, je ne vous dis pas le nombre d'endroits où ça, même au sens propre du terme, où ça pue les égouts, où c'est sale, etc. Bon, ça s'est quand même nettement amélioré, et je pense que le fait qu'ils soient assez soudés, très syndiqués, a nécessairement contribué à améliorer, on va dire, leur quotidien. Donc voilà, ce premier tableau, moi j'aimerais bien qu'il y ait déjà, à ce stade, des questions qui viennent de vous et qui me... Voilà, qui puisse orienter un peu la suite de la discussion. Je ne sais pas s'il y a une personne qui a envie de se lancer, ou une réflexion, une remarque sur laquelle on pourra rebondir.
Qui souhaite dire quelque chose, n'hésitez pas. Moi, j'ai envie de vous poser la question par rapport à ce que vous dites, c'est est-ce qu'on peut être commissaire dans certaines régions sans être franc-maçon, finalement? Est-ce qu'on peut être ministre de l'Intérieur sans être assez proche, soit franc-maçon, soit assez proche? Que du coup, les liens que vous dites, qui se reportent aussi dans les syndicats et dans les partis politiques qui sont transversaux, ont une importance énorme.
Ben, effectivement, moi je les prends un par un dans le livre Les ministres, et j'arrive à la conclusion qu'il y en a très peu qui n'avaient pas un pied dans la franc-maçonnerie, même si c'était pas fondamentales pour eux, ça pouvait être anecdotique, mais qui ne s'en sont pas servis en tout cas. Il y en a très très peu, et donc c'est très prégnant à tous les moments. Je pourrais en citer plusieurs, mais depuis une dizaine d'années, si vous prenez Manuel Valls, si vous prenez Bernard Collomb, si vous prenez à gauche plutôt, il n'y en a pas un qui a échappé à ce modèle-là. Gérald Darmanin, c'est pas très net pour moi, c'est pas très clair. J'ai l'impression qu'il se sert moins de cela, mais jusque là, effectivement, concernant les ministres, il y avait vraiment une énorme majorité d'entre eux qui avaient un pied là-dedans et qui allaient chercher leurs hommes de confiance là-dedans. Après, concernant les chefs, la strate juste en dessous, c'est là où il y a le plus, la franc-maçonnerie est la plus représentée, c'est dans la haute hiérarchie. Et là, il y a pas mal de policiers qui disent, en gros, si tu veux réussir dans la carrière, il faut effectivement avoir un pied en franc-maçonnerie. Pourquoi pas, à une époque, il fallait avoir une carte au RPR ou à l'UMP. Maintenant, les cartes sont un peu rebattues, mais il fallait avoir cela. Il fallait cocher, en fait, toutes les cases. Si en plus, on avait été rugbyman et corse, je vous en parle pas. Là, on pouvait cocher encore d'autres cases, parce que c'est des sous-familles. Et plus on avait de chance, effectivement, de voir sa carrière, aller dans le bon sens. Donc, oui, c'est un jeu comme ça où on joue des coups en permanence, où on essaie d'avoir le maximum de cartes en portefeuille pour fonctionner. Et ça peut même, j'ai un policier qui est un ancien patron de la police qui dit dans le livre, ça peut même devenir obsessionnel chez certains hiérarques de la police de chercher, de cocher encore plus de cases pour être sûr demain d'avoir le poste dans ton rêve. Voilà, c'est sur fond d'ambition. Mais l'ambition, c'est pas forcément une tare. Hein. Ça peut aussi être un des moteurs de la police. Mais en gros, c'est comme ça que ça fonctionne.
Ça peut poser problème quand même d'une certaine manière si, par exemple, ces policiers, ces chefs sont confrontés à des affaires qui touchent les gens dans la franc-maçonnerie ou liés à la franc-maçonnerie. Du coup, voilà.
Ça, c'est ce que j'appelle les zones d'ombre et les dérives. Et quand on voit qu'un certain nombre de... Quand on épluche comme ça les affaires... Moi, je pense à une notamment qui m'a vraiment frappé, que je développe là-dedans, dans le livre. C'est dans les années 90, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait une énorme affaire politico-financière qui était l'affaire Elf. L'affaire Elf, c'est en gros, on découvre tout d'un coup que le pouvoir politique se finance en partie, parce qu'à l'époque, on payait en espèces les campagnes électorales, grâce à la compagnie pétrolière française et à de l'argent qui circule entre l'Afrique et la France. Eh bien, cette pompe à finances, le moteur de cette pompe à finances a longtemps été la franc-maçonnerie, parce que l'un des réseaux que la France-Afrique a développé, sur lequel s'est développée la France-Afrique, c'est précisément la franc-maçonnerie. Et en fait, le colonisateur français a apporté la franc-maçonnerie en Afrique pour justement qu'un certain nombre de chefs de gouvernement soient choisis et promus et désignés et fait allégeance. Et donc l'argent a longtemps circulé comme ça. Et après, à la fin, vous vous retrouvez avec cet incident, ça dépend comment on regarde ça, ça peut être considéré comme un scandale. En tout cas, cette anomalie gigantesque qui est, je ne sais pas si vous vous souvenez de la juge Eva Joly, c'est elle qui enquête sur l'affaire Elf à l'époque. Et puis partout il y a des obstacles, partout il y a des barrages. Et à un moment donné, elle croit qu'elle va toucher au but et elle va saisir chez un des hommes forts du groupe Elf un certain nombre de documents qu'il n'a pas eu le temps de dissimuler ou de planquer, alors qu'on lui avait certainement dit, parce que c'est aussi ça qu'une perquisition rôdait, parce que c'est oui, c'est ça, c'est celle-là. Mais à un moment donné, donc il y a des documents qui sont saisis chez André Tarallo, qui était un des hommes forts du groupe, un des chefs d'orchestre de cette pompe à finances. Et ces documents se retrouvent donc rue du Château des Rentiers à la Brigade financière à Paris. Et la juge se frotte les mains, elle prépare des auditions du lundi suivant, elle va enfin pouvoir confondre quelqu'un qui va être obligé de s'expliquer et peut-être va faire basculer le dossier. Eh bien, le carton dans lequel sont entreposés les scellés qui devraient faire basculer l'affaire vont disparaître de la brigade financière durant le week-end. Alors moi, je peux pas avancer de non parce que j'ai pas d'épreuves, mais je laisse entendre. Je ne peux pas écrire noir sur blanc. On est quand même soumis à des règles. On ne peut pas écrire n'importe quoi dans un livre parce qu'on est soumis aux lois de la diffamation. Donc, si j'ai pas la preuve que c'est lui, je ne peux pas écrire son nom. Mais en revanche, j'explique à peu près qui il est. Lui, il est c'est sans doute connu, mais il n'a pas. Ça fait plus de 3 mois que le livre est cité, donc je n'aurai pas a priori de poursuite en diffamation. Mais on sait en gros qui a fait disparaître les cartons, et c'est vraiment rentré en jeu le réseau franc-maçon. Donc effectivement, j'ai voulu dire du bien de ces réseaux avant parce que justement, j'ai pas une vision comme ça binaire. Comme ça, je pense que ces réseaux sont utiles, mais il y a un certain nombre de moments, de points dans l'histoire où il s'est avéré qu'ils étaient plutôt nuisibles au bon fonctionnement, notamment de la justice.
Vous parlez de la hiérarchie et la base. Alors, par rapport justement à ces personnages qui viennent de la franc-maçonnerie, qu'est-ce que...
Mais proportionnellement, il y a beaucoup moins de... Bon, les gardiens de la paix, ils sont beaucoup plus nombreux que leurs chefs. Hein. La base, enfin, les gardiens et gardiens, comme on les appelle, c'est vraiment la grande masse de la police. Alors, ils sont très syndiqués, comme je le disais. Ils sont plus syndiqués encore que les enseignants. Donc déjà, ils se raccrochent à cela. Et au sein des syndicats qui représentent la base, la franc-maçonnerie est extrêmement représentée. Donc vous avez dans ces syndicats des représentants élus, on va dire, de la base, qui ont, eux, accès au Cénacle, dans lesquels ils peuvent peut-être débloquer certaines situations, etc. Et vous avez des policiers qui... je veux dire, c'est pas parce qu'on est gardien de la paix qu'on n'a pas... Je veux dire, on peut aussi aspirer à une espèce d'élévation. Au départ, c'est comme ça que ça commence, une élévation intellectuelle. C'est comme ça que c'est vécu par ceux que j'ai questionnés, parce qu'ils se retrouvent confrontés à des gens d'un plus haut niveau social que le leur, et plus haut niveau intellectuel aussi, qu'il y a des échanges qui se font, et que par perméabilité, par porosité, je trouve que c'est plutôt sain d'ailleurs, parce que ça fait des policiers qui réfléchissent à leur métier, au sens de leur métier, pourquoi je suis là, et pourquoi ça veut dire quoi, l'ordre, les forces de l'ordre, ça fait réfléchir. Donc moi je suis plutôt partisan d'avoir des policiers qui réfléchissent parfois à leur métier, une fois qu'ils sont ensuite dans les rangs, ils apportent sans doute à l'équipe, au groupe, parce que vous savez que les policiers fonctionnent en équipe toujours, hein, rarement à moins de 3 dans la rue ensemble, parce que c'est dangereux. Déjà, donc pareil en équipage en voiture, qui sont en patin à roulettes, en vélo, en voiture, ils sont souvent au minimum 3. Et ils sortent plus aujourd'hui à 2, parce que c'est trop peu. Donc s'il y en a un qui peut apporter un certain nombre pondérer ses voisins parce qu'il a un peu réfléchi, moi je trouve que c'est plutôt pas mal dans ce sens-là.
D'autres questions ?
Bah oui, sûrement. Ou des remarques même. Vous avez envie de dire des choses, allez-y.
Oui, les affaires de police sont confiées à la police. Mais il y a des affaires de police qui sont confiées à la gendarmerie.
Ouais.
Qu'est-ce que vous avez comme opinion sur cette saisine qui est du domaine de la justice et qui intervient dans certaines circonstances toujours problématique?
C'est vrai que en termes de... Il y a deux choses dans ce que vous dites. Il y a les affaires de discipline. Les affaires de discipline interne à la gendarmerie sont confiées toujours à l'IGGN, c'est l'Inspection Générale de la Gendarmerie Nationale. Et les affaires de discipline interne qui concernent des policiers sont confiées à l'IGPN, l'Inspection Générale de la Police Nationale. Donc là, effectivement, on peut se poser un certain nombre de questions sur... Et longtemps, moi, je me suis dit que c'était la meilleure façon d'arranger les affaires en famille, en gros. Et c'est vrai que ça a longtemps été le cas. Jusqu'à la fin des années 80, on peut considérer qu'à chaque fois qu'on mettait son nez dans une de ces affaires, on s'apercevait que ces inspections étaient surtout là pour mettre une couverture, pour essayer de faire en sorte, pour limiter le scandale, etc. Mais ça a beaucoup évolué, et au moins pour ce qui concerne la police, quand vous interrogez des policiers qui sont passés entre les mains de leurs collègues des inspections générales de la police, vous êtes surpris de les voir tous se plaindre de la manière dont ils ont été traités et dire en gros, mais à chaque fois la phrase qui revient c'est ils m'ont traité comme un voyou. Effectivement, je pense que les policiers sont pas forcément hyper tendres avec leurs collègues quand il y a des... Non seulement ils sont pas tendres, mais il peut y avoir des situations de revanche sociale, par exemple me vient en tête l'histoire d'un commissaire de police qui avait refusé une promotion à un officier, et puis il retrouve cet officier à l'inspection générale de la police face à lui qui l'interroge. Donc on voit bien les limites de l'exercice quand vous êtes jugé par vos... Enfin, jugé, il ne vous juge pas. Quand vous êtes soumis aux questions de votre propre père, on va dire, oui, il y a des limites à l'exercice. Mais quand on dit aux policiers... Quand on réfléchit et qu'on se dit que ce serait peut-être mieux que vous soyez, que ces organismes d'inspection comportent des gens extérieurs à la police, alors ça pourrait être des magistrats, mais aussi des gens qui n'ont rien à voir avec la police, parce que ça se fait dans certains pays et que ça pourrait être efficace, eux, ils vous répondent, ceux qui ont quelque chose à se reprocher, ouais, ça me plairait bien, parce qu'en fait, je préférerais être interrogé par des gens qui ne connaissent pas mon métier, et je m'en sortirais beaucoup mieux. En gros, on va les rouler dans la farine, c'est ça qu'ils répondent. C'est peut-être vrai, hein, mais on va les rouler dans la farine, c'est-à-dire qu'on saura mieux s'en sortir si on a affaire à des non-policiers qui n'ont pas le même vice que nous, parce que nous, policiers, on a le vice. Donc j'ai pas d'idée arrêtée sur est-ce qu'on devrait confier... Peut-être on devrait insuffler effectivement quelques civils dans ces organismes. Mais ça, c'est la première partie. Et la deuxième que vous soulevez, c'est autre chose. C'est-à-dire quand il y a des policiers qui sont mis en cause, parfois, la justice peut décider de confier une enquête sur des policiers à des gendarmes. On n'est plus dans le disciplinaire, mais on est dans les affaires soupçons de corruption, des choses comme ça. Et vice-versa, de confier des enquêtes sur la gendarmerie à la police. Alors je ne vous cache pas que ça n'arrange pas les relations entre ces deux maisons qui malheureusement, se détestent cordialement, se font souvent la concurrence, et d'ailleurs ont été créées historiquement en France pour se surveiller l'une l'autre, parce que si le pouvoir a créé il y a très longtemps deux maisons, deux entités, c'est précisément pour que l'une puisse neutraliser et surveiller l'autre, et c'était une époque où... on pouvait avoir peur d'une rébellion, d'une mutinerie d'un côté ou de l'autre, et dans ce cas on aurait appelé l'autre maison. Et quand récemment vous avez eu des policiers qui ont manifesté, je pense notamment après les événements de Viry-Châtillon en 2015-16, où vous avez des policiers, je ne sais pas si vous vous souvenez, qui avaient été pris à partie dans des véhicules par une bande de jeunes cagoulés, etc., qui ont depuis été jugés, hein, qui avaient été pris à partie et qui avait été ensuite interpellé pour tentative d'assassinat, parce qu'en fait, ils avaient attaqué un cocktail Molotov, bloqué les voitures, etc. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les policiers avaient manifesté, étaient allés dans la rue et avaient défilé de manière un peu pirate, sauvage, parfois avec leurs armes de service, d'ailleurs, dans les rues à Paris. Et je me souviens d'avoir accompagné une de ces manifestations un soir où en gros, rue de Rivoli, place de la Concorde, rue de Marigny, et puis on approche du ministère de l'Intérieur. Et là, le pouvoir, à ce moment-là, envoie une compagnie de gendarmerie mobile, et pas des CRS, parce qu'ils pensent que, c'est le réflexe, ils pensent que les gendarmes mobiles, enfin que des CRS pourraient, parce que c'est arrivé dans le passé, ouvrir la voie, dire, se pousser, ranger... Enlever le casque, baisser le bouclier et dire allez-y, quoi, par solidarité, parce qu'ils sont... Donc le pouvoir en France s'est toujours méfié, en fait, de ses forces de l'ordre, et a toujours eu besoin d'avoir ces deux fers au feu. Je rappelle quand même que récemment, la gendarmerie a été placée sous le contrôle, on va dire, du ministre de l'Intérieur, ce qui n'était pas le cas jusque dans les années 80-90, hein, où la gendarmerie, enfin, c'était vraiment des militaires qui... Les militaires, ils ont le statut militaire, ils dépendaient du ministère de la Défense. Donc là, aujourd'hui, on a quand même une espèce de... Heureusement, je trouve que là, c'était un peu ridicule, même en termes de perte d'énergie, en termes de... Je veux dire, au moins qu'il y ait une direction commune et que ça fonctionne dans le même sens. Donc aujourd'hui, ils sont dans la même maison, mais ils se livrent toujours une concurrence féroce et sauvage.
Donc
m'intéresse.
Ou même des réflexions.
Ou même des réflexions.
Si vous redevenez commissaire, c'est d'abord, c'est basique pour passer un concours. Mais la France est le seul pays au monde qui a ce concours qui est le moins mauvais des systèmes d'accès à la fonction publique. Moi, je suis parti de plusieurs concours. On ne peut pas tricher. Ça, c'est une légende totale. Un écrit de concours, personne ne peut tricher. Parce que d'abord, dans la salle, on est surveillé. Et puis, que c'est pas possible. À l'oral, j'allais dire que c'est sécurisé, mais j'ai eu, moi, par le passé, des exemples très concrets de gens qui ont pu, à l'oral, sur les concours de police, être un tout petit peu informés d'un sujet qui avait pu fuiter. Hein, ça, c'est, voilà. Mais on a au moins, donc pour devenir commissaire, on peut être fils de franc-maçon, pas franc-maçon, on a un concours, on l'a pas. Après, dans la progression, oui,
on est nommé.
Oui, on peut. C'est-à-dire pour des formations à l'université, mon jeune université, il y a partout. Hein. Peut-être que si j'avais été moi-même, j'aurais peut-être eu une carrière. Mais bon, oui, mais voilà, après on est plus libre aussi. Et cet aspect de liberté. Quand on fait partie de quelque chose ou pas, on est libre ou on n'est pas libre. Voilà, c'est tout ça. Mais pour ce qui est des concours, c'est au moins on a cette certitude-là qui fait que voilà.
Théoriquement. Je raconte une histoire dans le livre qui est une véritable entorse à cette règle.
J'ai fait partie d'un jury où, je me rappelle, c'était un recrutement d'universitaires à Toulouse, et il y a eu des questions posées, et moi j'ai écouté, c'est pas une question, c'est pas objectif du tout. Donc soit on s'arrête là, concrètement, ou soit je fais un rapport circonstancié auprès de l'université. Alors, j'étais un peu rentré sur Poulain Rond.
Non, mais là, je raconte une histoire qui me nourrit un chapitre un petit peu croustillant, où il y a effectivement une jeune femme qui voulait absolument devenir commissaire de police, d'origine maghrébine, avec dans sa famille d'ailleurs, on l'a découvert après, des garçons parmi ses frères pas forcément fréquentables. Et cette femme avait réussi à trouver un poste au niveau supérieur du Place Beauvau, au niveau de la direction générale de la police nationale. Et puis elle a tout simplement, tout bonnement, dragué le grand chef qui allait organiser le concours du commissaire de police, tout simplement. Et donc à partir de là, sur l'oreiller, elle a obtenu les sujets du concours et un petit coup de pouce, etc. Et bon, malheureusement pour elle, ça a failli bien marcher, sauf que elle s'est un peu trop vantée de ceci auprès de ses frères, et qu'il se trouve que l'un de ses frères était sur écoute pour une affaire de stupéfiants à Lille ou à Roubaix, et qu'à partir de là, les policiers se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est que cette femme qui... Cette collègue qui tout d'un coup prétend qu'elle va absolument avoir le concours, qu'il n'y a aucun problème, que c'est joué d'avance, etc. Et ils ont placé sur écoute les deux, donc le grand chef et cette jeune femme, et puis ils ont commencé à voir tous les love messages qu'ils s'échangeaient, etc. Et bien figurez-vous que le concours, alors que les épreuves écrites avaient déjà été passées, a été annulé au grand dam de tous les gars qui s'étaient, ou femmes ou hommes qui s'étaient défoncés pour rendre une bonne copie. Il a fallu tout recommencer, et ce monsieur est tombé de très très haut, son épouse aussi d'ailleurs, et cette femme donc a été mise au banc de la police, comme quoi même là où on croit que ça peut fonctionner, là c'est quand, voilà, c'est pour ça que je me suis permis de... Comment j'ai sous-titré Loge, je sais plus. Il n'y a pas. Ouais, Loge, influence et corruption. Ah, j'ai pas mis le mot sexe quand même, je suis pas allé jusque-là.
Et vous parlez de l'épouse du grand chef.
Non, mais l'épouse du grand chef est tombée du placard parce qu'effectivement, elle était.
Le grand chef, après, il est devenu petit chef.
Ah oui, il est sorti du jeu, malheureusement pour lui. Il est tombé lui aussi de très haut. Il a été écarté totalement. Donc ça me permet de faire un chapitre un petit peu plus léger, on va dire.
D'autres questions, allez-y.
Ouais, ou quelque chose à dire.
Allez-y.
Ouais. Allez-y. Sinon, une question aussi, le citoyen en général, vous parlez de la gendarmerie de la police, le citoyen en général a plutôt une image pas très reluisante de la police, au contraire, une image assez positive de la gendarmerie. Comment, pourquoi en fait, à votre avis, selon l'histoire? Est-ce que la France est un État un petit peu plus policier que ses voisins? On a peut-être ce sentiment, il y a quand même une DRG, une police un peu plus politique. Comment ça se fait qu'on ait une relation, il y a un mouvement culturel avec le policier?
Mais je pense que ça tient au fait que les gendarmes globalement interviennent dans les zones rurales, dans les petites villes où ils ont beaucoup moins de difficultés, alors que le policier lui intervient en milieu urbain très dense, très dur, avec quand il y a un refus d'obtempérer par exemple en zone rurale, bon, il arrive que des personnes qui refusent de s'arrêter roulent au fond sur les gendarmes et que les gendarmes tirent, ça arrive. Mais globalement, ils sont quand même moins soumis à ce genre de tension, et donc il y a moins d'affrontements, et donc il y a moins de, on va dire, d'animosité, de mauvaises histoires accumulées. Si vous allez dans les quartiers, dans n'importe quel quartier de banlieue, on va vous raconter des générations d'affrontements entre le policier, etc. Alors que quand vous intervenez finalement en zone, je ne veux pas déprécier le travail des gendarmes, mais globalement, ils traitent une plus grande partie du territoire, mais ils ne traitent même pas 20% de la criminalité, alors que les policiers en traitent 80% et les choses beaucoup plus tendues. Et je pense que ça crée, c'est ça qui abîme la relation. Alors que le gendarme, il est sur la place du village, à la sortie de la messe, il regarde un peu si vous avez votre ceinture. Enfin, c'est pas le même rapport, quand même. Et c'est pas, y a historiquement beaucoup moins de, on va dire, de conflits qui s'accumulent. Et donc le gendarme bénéficie, jouit de cette image dont la gendarmerie sait se servir d'ailleurs pour, en permanence. Et ben nous, on est les bien-aimés de la République.
Et par rapport aux autres pays, j'ai l'impression qu'il y a des pays, c'est plus apaisé.
Où ça ?
Au nord d'Europe.
Peut-être qu'il n'y a pas les mêmes, je ne sais pas, c'est les mêmes tensions non plus sociales, les mêmes, et puis une autre culture anglo-saxonne, je ne sais pas. En France, on proteste, on descend dans la rue, on brûle des pneus. Enfin, on est peut-être que dans ces pays-là, tout se passe, les négociations, notamment syndicales, se passent autrement. Vous avez qu'à regarder ce qui se passe en Allemagne. Enfin, c'est moins. Là, il y a la confrontation. On est dans un pays de confrontation sociale directe déjà. Et on a vécu des années comme ça, qui historiquement ont contribué à faire qu'au bout d'une revendication sociale, il y a toujours une castagne entre un CRS et un manifestant. Toujours. Mais ça fait 50 ans que ça dure. Donc cette histoire, dans notre imaginaire, elle est extrêmement importante. Et elle ne l'est pas, je pense, dans ces pays-là. C'est. Voilà, il faudrait exporter 100 000 Gaulois en Scandinavie, voir comment ça finit.
On a fait la révolution, quand même. Donc,
oui, c'est ça.
Il y a un héritage.
Absolument.
Pour revenir à la gendarmerie, comme ils sont, si je ne dis pas trop de bêtises, historiquement bien implantés à la campagne, et également, il fut un temps dans les cafés, où c'est là qu'on a le renseignement. Peut-être qu'ils n'ont pas besoin de maltraiter, entre guillemets, autant que la police, les personnes, parce qu'ils ont déjà des pré-renseignements, donc ils ne sont pas obligés d'aller avec brutalité cueillir du renseignement. Peut-être qu'ils l'ont de manière un peu plus fluide, naturelle et constante.
Ils n'ont pas besoin d'utiliser un bottin, c'est ça, mais d'ailleurs, il n'y a plus de bottin. Après, on le tapait avec le bottin, après on a tapé avec le Minitel, et après... Maintenant, il n'y a plus ni Minitel, ni bottin. Non, je ne sais pas si c'est lié à ça, mais il y a une chose qu'il faut dire, c'est que j'ai beaucoup parlé tout à l'heure de l'isolement du policier dans la société, qui expliquait un certain nombre de choses, de ses choix, de ses comportements, même de ses dérives. Et puis la différence majeure entre la police et la gendarmerie, il faut quand même le dire, parce que vous le savez peut-être pas, c'est que le policier, il vit éparpillé dans la société, il vit dans une cité où il peut y avoir des voyous, des trafiquants, etc., alors que le gendarme, il vit en caserne. Et les gendarmes se serrent les couilles, ils vivent ensemble en réalité. Les épouses de gendarmes, ou les épouses s'il s'agit de femmes, se connaissent tous, il y a un contrôle social peut-être aussi beaucoup plus fort. Et ça, je pense que ça joue aussi dans cet état d'esprit. C'est-à-dire que il y a, oui, c'est ça, l'idée du contrôle social est très forte quand vous vivez en caserne, où finalement vous retrouvez les jours de congé ensemble, plus que les policiers qui sont, eux, un peu plus, on va dire, isolés et dans la société.
Seul pays d'Europe, pardon, à avoir gendarmerie et police dans la majorité de pays, donc un corps. Est-ce que
tout ça, ça ne sert pas un jour. Enfin, je parle trop fort, je vais me faire trop signer. Mais on se paye encore le luxe en France, je veux dire, d'avoir police d'un côté, gendarmerie, si on ne pourrait pas.
Bah, j'ai expliqué tout à l'heure le pourquoi. Hein. C'est que le pouvoir politique a quelque part dans son inconscient l'idée qu'une force va contrôler l'autre. Et
qu'il
n'y
a pas le droit de grève.
Ah, oui. Par ailleurs, oui.
Le gendarme n'a pas le droit de grève.
Mais le policier n'a pas le droit de grève non plus. En fait, non. Ils ont le droit de manifester, de déposer des... Mais quand il n'y a pas de droit de grève dans la police. Mais ils ont le droit de... Ouais, ils sont syndiqués déjà, de fait. Ils ont donc des représentants qui vont parler pour eux dans les médias en permanence, que n'ont pas les gendarmes. Mais pour aller manifester, ils doivent déposer un jour de congé. Il n'y a pas de droit de grève non plus dans la police. Mais donc voilà, ces deux forces, je ne sais pas à quel moment la France tournerait la page. Il y a eu des tentatives de politique à un moment donné de proposer une réforme et de dire on va fusionner, on va faire qu'un seul corps. Il y a quand même 110 000 d'un côté, 110 000 gendarmes et peut-être 130 000 policiers. Ça ferait une énorme force. Mais ça permettrait de gagner du monde parce qu'on est sans cesse en train de chercher des gens du bleu pour mettre dans la rue pour occuper le terrain. Et c'est vrai que là, le fait qu'on ait à chaque fois double état-major, double hiérarchie, double ceci, ça neutralise énormément d'hommes. Donc on se paye, je dirais ça, que pour l'instant, on se paye le luxe en France d'entretenir ces deux énormes machines. Jusqu'à quand, je ne sais pas, mais il y a vraiment deux cultures et jamais vous convaincrez un gendarme d'abandonner son statut militaire, et jamais vous convaincrez un policier d'abandonner son statut civil pour devenir militaire. Donc ce sont deux cultures qui cohabitent et qui sont destinées, à mon avis, à cohabiter encore un bon moment.
Bonjour. Tout d'abord, je peux vous dire que j'ai pas lu votre livre, je l'ai dévoré.
Ah oui.
Vraiment exceptionnel. D'autant, je peux en parler parce que j'ai été à la DCRG de 86 à 97.
D'accord.
Moi, j'ai très bien connu les maçonniers, Bertrand, toutes les personnes
que vous
citez dans votre livre, la plupart. J'ai bénéficié moi aussi d'un réseau quand je suis monté à Paris à 20 ans, c'était le réseau Rubik à Soulet à l'époque.
Ah ben voilà, voilà, un cas important.
C'est pour ça que je me suis retrouvé à la DCRG. Ma question, c'est que pensez-vous de la LOPCI, notamment vous qui êtes journaliste de FEDIV et d'investigation, que pensez-vous de cette modification et de ce changement qui va polluer l'investigation, qui va avoir beaucoup de changements dans l'investigation?
La police judiciaire? La réforme la police de la police
en général.
Mais je ne sais pas si là il faut expliquer un peu ou rappeler les fondamentaux. D'abord, merci pour votre lecture. Et effectivement, bon, là, j'ai parlé tout à l'heure dans les quatre grandes familles de la police judiciaire, qui était la plus minoritaire, parce qu'ils sont pas, enfin dans le renseignement, ils sont pas très nombreux non plus, mais enfin, qui est une petite équipe, une petite famille dans la police, mais qui a toujours défendu son précaré. Et là, d'un seul coup, au niveau politique, en fait, pour répondre, il s'agissait de répondre aux citoyens et de répondre au fait que il y avait un amoncellement du petit contentieux dans les commissariats de police, des milliers et des milliers, peut-être même des millions d'affaires non réglées. Parce que vous avez porté plainte un jour pour le vol de la trottinette, pour l'insulte de votre voisin, pour je ne sais quoi, et que ces affaires, finalement, sont des affaires dites dormantes, oubliées, qu'en fait, il y a une incapacité physique à traiter, en fait, parce qu'il y en a trop. Il y en a trop sur les bureaux. Et à un moment donné, il y a quelqu'un au niveau du ministère de l'Intérieur qui s'est dit, et je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée, et en tout cas, toutes les personnes qui travaillent en police judiciaire que j'interroge, qui sont des professionnels, disent que c'est une mauvaise idée parce que c'est la mort de l'investigation. Mais en gros, l'idée, c'est, bon, puisque vous n'y arrivez pas, on va prendre les policiers de police judiciaire, je ne sais pas, 4-5 000, c'est ça ? Je donne le chiffre, là, bon, quelques milliers, qui, eux, ont la réputation, ils ont plusieurs problèmes. La police judiciaire a plusieurs problèmes. C'est que pour faire des affaires, elle a besoin de temps et de moyens. Donc politiquement, les affaires qu'elle apporte, 6 mois après, 1 an après, c'est pas exploitable et rentabilisable quand on est un ministre de l'Intérieur qui tous les jours rend des comptes à l'opinion, tous les jours occupe le terrain, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Tout d'un coup, on vous dit, ah ben oui, mais là, on peut pas faire parce que pour faire tomber ce réseau de stupéfiants, ben, laissez-nous 6 mois, 1 an, 9 mois. Ah oui, mais moi, quand je serai ministre, peut-être que dans 9 mois, je serai plus ministre de l'Intérieur. Il y a cette espèce de pression politique qui, à mon avis, est une mauvaise raison pour laquelle on a décidé, donc, à un moment donné, de récemment, mais c'est en cours là depuis quelques mois, de dissoudre d'une certaine façon la police judiciaire, donc une unité d'élite dans la masse pour que, soi-disant, à un moment donné, ces policiers, c'est ça, viennent écluser ce petit contentieux. Alors, moi, j'y crois pas trop, je vois pas comment ça va se passer. Et ce que j'entends de la part de ces policiers, de bon, c'est qu'effectivement, c'était facile, c'était même... Vis-à-vis de la maison police, c'était relativement simple à plaider en disant, vous inquiétez pas, on va fondre l'élite dans la masse, il y aura plus d'élite de la police. Et puis d'ailleurs, ils travaillent pas beaucoup, et puis d'ailleurs, ils rendent pas compte, et puis d'ailleurs, il y avait toute cette espèce de légende autour des gars de police judiciaire qui passaient plus de temps dans les restos, à fêter leurs affaires, ce qui est faux, quoi. Je veux dire, évidemment, c'était une façon de vivre, mais qui était pas forcément bien vue de tous. Donc, décision a été prise de réformer. Et d'ailleurs, le gars qui était censé faire la réforme de la police judiciaire, c'est celui qui a couché avec la fille qui voulait devenir commissaire. Donc ça a pris un peu de retard. Ça a pris un peu de retard, mais il a fallu trouver quelqu'un d'autre pour s'en occuper et pour aller jusqu'au bout. Mais ça, c'est en train de se faire. Et là, moi, des échos que j'ai... Enfin, j'entends surtout pleurer des personnes en police judiciaire. Et c'est vrai que moi, je suis un peu spécialisé sur la criminalité organisée. Et que je vois très bien aussi, puisque j'écris pas que sur la police, j'écris beaucoup sur le crime, je croise énormément autant de policiers que de voyous. En gros, c'est un avantage que j'ai dans mon métier de journaliste, c'est de pouvoir déjeuner avec un gangster et dîner avec un policier le même jour, et puis après avoir pris le goûter l'après-midi avec son avocat, sans jamais en 40 ans avoir organisé le moindre échange entre ces trois personnages, parce que sinon vous êtes cuit et grillé. Donc voilà, il faut savoir juste où on est, où on habite, qui on est, et pas se fourvoyer. Et donc j'entends tout ça pour dire que j'entends beaucoup de gangsters, de voyous se féliciter de la disparition, de l'amenuisement de cette police judiciaire qui était leur pire ennemi, on va dire, redouté, et qui disent en gros aujourd'hui... c'est pain béni. Alors quand je vais dire ça au directeur général de la police nationale, Frédéric Vaux, il me dit « Mais non, c'est pas comme ça. Moi, j'ai fait de la PJ. Tu sais bien, si j'ai pris cette décision, c'est pas la mort de la PJ. » Donc j'attends de voir. Mais en gros, la difficulté avec laquelle on risque d'être confronté, c'est qu'on va perdre des spécialistes qui sont les seuls finalement à pouvoir traquer un crime organisé qui a de beaux jours devant lui dans le monde et en France en particulier, pas seulement à travers les trafics de stupéfiants en général, mais vous voyez bien que pour contrer ces puissantes organisations criminelles qui sont aujourd'hui mondiales et qui ont à l'échelle du monde des moyens parfois supérieurs à celles de certains États, vous n'avez pas envoyé... J'ai rien contre les gardiens de la paix. Moi, je respecte parfaitement chaque... Au contraire, je veux dire, on a besoin d'eux au quotidien, mais vous devez envoyer des gens un peu spécialisés qui possèdent surtout le droit sur le bout des doigts, parce que sinon, il est évident que si vous commencez à confier ce genre d'affaires à des gens qui ne sont pas spécialisés, forcément, nécessairement, vu la complexité de la procédure pénale aujourd'hui, ils vont faire une erreur à un endroit. Et forcément, ces gens en face, le crime organisé, aura les moyens de se payer, ce qui est légitime d'ailleurs, on ne va pas le contester, les meilleurs avocats du moment, et que ces avocats vont trouver immédiatement et très rapidement la petite faille qui va permettre de, en gros, réduire à néant et à zéro 6 mois de procédure, parce que vous avez oublié dans le premier PV de marquer que je ne sais pas quoi, dans le deuxième de faire ceci, et puis dans le troisième, vous avez un an, la perquisition, ce n'était pas le moment où vous ne pouviez pas le faire. Donc, c'est vraiment un métier de spécialiste de s'attaquer à ces organisations. Donc moi, qui côtoie cette criminalité organisée internationale, on va dire, pour répondre sincèrement, ça ne me rassure pas pleinement, cette réforme.
Mais les offices, ils ne vont pas trop toucher, quand même.
Absolument, mais... Les offices, c'est une chose. Les offices pour être, les offices centraux sont des petites équipes qui sont basées à Nanterre, en région parisienne, et qui comptent pas tant de monde que ça, et qui sont censés être spécialisés. Alors vous avez l'office pour le trafic d'armes, l'office pour la traite des êtres humains, donc la prostitution, enfin le proxénétisme, l'office pour les stupéfiants, l'office pour... pourquoi d'autre ? Il y en a un paquet comme ça. Mais ces offices, quand ils se déplacent en province, ils s'appuient généralement sur la police judiciaire. Donc ils ont créé des petites antennes ici et là. Mais c'est vrai qu'il y avait une force de frappe... Et que si un matin on se réveille avec une force de frappe et qu'on découvre que cette force de frappe s'est considérablement amenuisée, ben on risque de le regretter, je pense.
Moi, je voudrais dire que c'est une réforme totalement contre-productive, très dangereuse pour le citoyen, parce que les offices et les PJ avaient deux avantages sur la police. C'est que d'abord, ils étaient compétents, ils étaient des petites équipes. Pas assez fournis, mais qui étaient très compétentes et capables de gérer n'importe quelle affaire financière, donc c'est la mort de toute enquête financière. Et il y avait un deuxième élément qui est plus difficile à retrouver, c'est l'indépendance par rapport au pouvoir politique.
Ça, c'est vrai.
Parce que le commissariat et ses policiers.
C'est vrai, j'en ai pas parlé,
ils sont plus vite chez le préfet que chez le procureur. Donc ça va donner un moins au fonctionnement démocratique.
Non, je suis d'accord, vous avez raison, mais pour expliquer à ceux qui ne connaissent pas, effectivement, en gros, c'est la victoire de la police, de la sécurité publique et du maintien de l'ordre sur l'investigation. Et d'ailleurs, quand vous voyez dans l'actualité, là récemment, quand moi j'ai été appelé à commenter ces fameuses opérations PlaceNet, c'est un peu ce que je me suis dit. Je veux dire, c'est en gros, on va traiter maintenant la question du trafic du stupéfiant avec des opérations de maintien de l'ordre. À grand spectacle, opération coup de poing, comme ça se faisait sous Poniatowski il y a je ne sais combien d'années. Depuis toujours, on a pratiqué cela, mais avec des CRS, des gendarmes mobiles et des gardes de la paix. C'est sûr qu'on va perturber un petit peu avec ces opérations le deal sur 24-48 heures, mais c'est la victoire de quelque chose qui est antinomique avec les enquêtes dont on parlait, les investigations au long cours. Et vous avez raison de pointer un point, c'est qu'en dehors des affaires de crimes organisés et de stupéfiants, les affaires politico-financières, je ne sais pas comment à l'avenir elles seront traitées, mais il va de soi que si, en gros, vous rendez compte au préfet systématiquement à chaque fois de ce qui va se passer, que le préfet, lui, peut avoir des réflexes de protection de son territoire. Non, on va arranger le coup autrement, il n'y aura pas d'histoire. Et puis moi, je suis bien avec le maire, je suis bien avec le député, vous n'allez pas, etc. Enfin, en fait... Il y a probablement, là, on est en train d'atteindre un point où on va nuire, effectivement, certainement, à ces affaires politico-financières et pas seulement à la lutte contre le crime organisé à cause de ce que vous venez de pointer. Donc c'est la victoire d'une certaine vision de la police, c'est la victoire des grands chefs de la sécurité publique, finalement, et ceux du renseignement et ceux de la police judiciaire.
La plupart sont CDDSP, directeurs départementaux de sécurité publique, qui deviennent des directeurs départementaux de la police nationale.
Exactement.
Et le gars qui était patron de la PJ devient son adjoint. Ouais. Donc ça pose un problème.
Et ouais, je pense qu'il y a une perte qualitative dont les policiers, dont les anciens de la police judiciaire nous disent que nous aurons du mal à nous remettre si on va jusqu'au bout. Donc je ne sais pas, peut-être qu'à un moment donné, on va s'en rendre compte, mais ce sera peut-être trop tard. C'est comme quand on a supprimé les renseignements généraux. Après, on se dit, merde, mais pourquoi on a supprimé les renseignements généraux? Parce que finalement, ils n'étaient pas forcément inutiles. Dans un certain nombre de cas, en tout cas, on s'est rendu compte qu'ils auraient pu nous avertir le pouvoir politique. Je pense aux gilets jaunes, je pense à tout un tas, même sur le terrorisme, etc. Donc on a essayé, à la va-vite, de recréer des pseudo-renseignements généraux. Mais en attendant... Et ça, c'était pour des raisons strictement politiciennes et politiques, puisqu'on avait un ministre de l'Intérieur, devenu président de la République, qui avait considéré que c'était Nicolas Sarkozy, que les renseignements généraux lui avaient monté une affaire pour le déstabiliser, etc. Donc, l'affaire Clairstream, et qui a décidé de casser les renseignements généraux pour des raisons qui n'avaient strictement rien à voir avec la lutte contre l'insécurité. Donc, là, c'est un peu différent, l'approche sur la question de la police judiciaire. Mais quelque part, c'est la victoire de la politique de court terme, du politique de court terme, et le fait que, comme si ce qui comptait, c'était de régler la question d'insécurité médiatiquement, politiquement, mais pas forcément dans le vrai. Et bon, moi qui regarde ça de très près, je peux vous dire que, voilà, je le répète, j'ai vu un certain nombre de délinquants se frotter les mains depuis quelques mois. C'est pas bon signe.
On peut penser que les opérations PlaceNet, qui ont, il faut le dire, vocation à défrayer la chronique, je pense qu'elles vont se multiplier, d'autant plus qu'on va arriver vers des élections, et tout ça dans un but clientéliste. Voilà, je pense.
Ce que je dis, c'est la victoire du bulletin de vote, quoi. C'est, on espère demain, à l'approche d'une élection, donc on va sacrifier les enquêtes au long cours. On va même, parce que les opérations PlaceNet sont allées jusqu'à casser les enquêtes en cours, parce que on a dit, allez, le ministre arrive, le président arrive, machin, on veut des têtes. Ah, mais monsieur, on l'a presque coincé, mais pas tout à fait, mais bon, vous le donnez quand même. Alors on vous le donne, et après dans les statistiques et dans l'affichage politique, on vous dit nous avons 90 personnes qui... Mais si on y retournait 15 jours ou 3 semaines après, on se rendrait compte qu'en fait, une fois que vous les avez arrêtés, vous les présentez à un juge. Si le juge vous lui amenez pas des billes et des pièces, il va pas incarcérer la personne, il va peut-être pas la mettre en examen, je sais pas, à un moment donné, en tout cas, c'est une vraie déperdition. Et c'est une déperdition d'énergie dans les deux sens, parce qu'il y a des policiers qui avaient enquêté sur cette personne, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout, et qu'au final, la société ne s'y retrouve pas, parce qu'il n'y a pas de peine, de condamnation, il n'y a pas de suite à ces coups de... On va dire... c'est un peu... Ça me fait penser au moulin à vent, un peu comme ça, des coups d'épée. mais voilà. Je ne vais pas vous décourager. Hein. Mais c'est un peu... D'abord, c'est le même ministre qui l'a supprimé que celui dont j'ai parlé pour les renseignements généraux, Nicolas Sarkozy. Donc, et c'est un peu pour les mêmes raisons. C'était juste... Je crois qu'il a même pas écouté les gens qui lui disaient que ça pouvait être utile et que dans certains endroits, ça fonctionnait. Il a fait un coup... pour moi, il a fait un coup de pub, un coup de... essentiellement idéologique. Il est allé, je me souviens, à Toulouse. Il a dit, c'est quoi ces policiers qui jouent au football avec des jeunes? Il a pris cette image pour dire, avec moi ça va pas se passer comme ça, on va plus jouer avec les délinquants, on va les incarcérer et puis vous allez voir, je vais les carcériser. Mais on voit bien qu'au-delà des mots, il s'est strictement rien passé et qu'on a peut-être perdu, c'est ce que disent un certain nombre de policiers, on a perdu aussi un ancrage justement territorial, local, et par les renseignements généraux d'un côté et par cette sécurité publique qui était un peu implantée. Et je pense qu'au final, c'est pas tout bénéfice pour le citoyen.
Mais le ministre en charge, il a vu ce qu'il pouvait y gagner dans l'immédiat, mais finalement, sur le long terme, il n'a pas pensé à ce qu'il allait perdre, notamment l'efficacité de la police de proximité, pour intégrer les gens marginaux, pour donner des idées républicaines à des jeunes qui n'en ont pas. Voilà, il a fait un bilan, je gagne ça, mais il n'a pas voulu penser à ce qu'il allait perdre sur le moyen long terme.
Vous savez bien que le métier de la politique, c'est le court terme, c'est le vote de demain, d'après-demain, et puis après, de toute façon, vous ne serez plus là, donc vous ne serez plus ministre, vous ne serez plus président, enfin, c'est un peu ça. Et heureusement, vous avez des gens qui essaient de penser l'action de la police à moyen terme et à long terme. Heureusement, mais ils ne sont pas toujours entendus.
C'était sécurisant aussi, la police de proximité, ouais. Pour le citoyen.
En tout cas, je peux vous dire que là où elle fonctionnait bien, elle avait des informations. Elle avait du renseignement local et que... C'est sûr que le fait...
DRG, elle pouvait être,
voilà, c'est ça.
Un premier crible à fournir aux copains.
Donc on s'est coupé de la base, on a coupé la police d'un certain nombre de renseignements qui étaient utiles. Et là, une police aveugle est une police qui ne tape pas au bon endroit.
Alors, parce que c'est assez effrayant de penser, sur Sarkozy, on savait qu'il avait fait cette réforme du renseignement, notamment parce qu'une affaire le disait, Claire Spring, mais une autre aussi. Et on s'aperçoit aussi, les langues commencent à se délier, que la réforme PJ s'est aussi instillée du côté de l'Élysée parce qu'on craindrait quelque chose qui sortirait sur le président.
Non, ça j'y crois pas.
Non, j'ai eu un écho
Alors là, je vous laisse.
Prenez le micro et racontez-nous. Ah bah si.
Non. Non, c'est pas. Je crois pas. Effectivement, il peut y avoir chez certains politiques l'idée que ces flics de PJ nous emmerdent parce qu'ils vont chercher comment on se finance, ils vont chercher à droite, à gauche, etc. Mais pas, ça vient pas d'Emmanuel Macron. Je pense qu'il a même pas eu son mot à dire. C'est pas lui qui impulse ça. C'est un autre niveau. Et c'est plus. Je pense que c'est plus pour avoir du résultat immédiat pour un ministre qui a envie d'être jugé sur ces chiffres. Voilà.
Peut-être que je vais faire le lien avec la question, c'est que vous parlez des réseaux secrets et les élections se dirigent vers quand même une opposition droite-extrême droite, hein, pour les années à venir. Et dans la police, il y a aussi beaucoup de policiers qui se sont proches de l'extrême droite. Mmh. Donc est-ce que ça rentre dans les réseaux? Est-ce que ça peut du coup expliquer des décisions comme, comme ça, des réformes comme ça? Et qu'est-ce qui se passe dans la police?
Je l'ai raconté un peu, mais là dans le livre, c'est la première fois d'ailleurs que ça se fait dans un bouquin sur la police. Je fais un chapitre sur l'extrême droite et la police, où je raconte les liens entre la famille Le Pen et la police depuis Jean-Marie jusqu'à Marine Le Pen, et comment, dès les débuts des années 80, moi je me souviens très bien d'avoir vu... Jean-Marie Le Pen, en 1983, au milieu d'une manifestation de policiers à Place Vendôme, contre le garde des Sceaux de l'époque, qui était Robert Badinter. Et donc je raconte ça, je pense que c'est important à savoir, et je raconte comment, parce qu'effectivement, en cas de... tous les scénarios sont possibles politiquement, je suis pas devin, mais je trouvais bien de faire émerger les noms des policiers qui conseillent, qui guident et qui font que Marine Le Pen sur la question de la sécurité de la police est très informée, et je raconte même une scène où à l'Assemblée nationale il y a un événement qui s'était produit dans le pays où elle a été informée visiblement avant même le ministre de l'Intérieur grâce à ses propres réseaux. Donc je fais de ce réseau-là, je me suis dit que je ne pouvais pas terminer ce livre sur les réseaux secrets de la police sans faire un chapitre sur le sujet que je ne vais pas vous raconter en détail, mais j'ai voulu le traiter. J'ai voulu le traiter, effectivement, traiter cette question.
Oui, on a beaucoup de temps.
Oui, parce qu'il va falloir avancer.
Une dernière question.
Et après, j'ai un train. Après, j'ai le train.
Très bien, on va repartir. Hein? De Clermont, faites attention.
Je vais tenter ma chance.
Il vient d'arriver, il va bien repartir.
Je vais tenter ma chance.
Ça, c'est bien sûr. Une dernière question, quelqu'un veut poser une dernière question?
Ou une remarque?
Une remarque?
Oui. Ou une réflexion?
Voilà. Si personne n'en a, au niveau fiction, vous parlez de l'idée Marchand, quel film, parce que la fiction de police, c'est sujet à tout et n'importe quoi. Tout et n'importe quoi sur les
histoires
de flics, etc. Et est-ce qu'il y a des films
Non, le seul que je citerai, parce que c'est un film de Bertrand Tavernier qui s'appelait L627 et qu'il a réalisé et écrit avec, sur sa table de chevet, a-t-il déclaré dans la presse, le premier livre que j'ai écrit sur la police qui s'appelait Les flics en 20 mètres inconnus en 99, hein, il y a très longtemps. Non, il y a plus que ça. Pardon ? Ça se discute. C'est très romancé. Disons que on peut considérer que c'est un bon film. Après, quand on connaît la véritable histoire et quand on connaît la police de Marseille, c'est vraiment de la fiction. C'est vraiment de la fiction, et ils ont pris beaucoup de distance avec le réel. Et au fond, Bac Nord, je vais peut-être vous décevoir, mais pour moi, c'est un film qui anoblit et embellit une réalité qui est beaucoup plus dure et triste, et qui fait de ripoux présumés des héros. Mais bon, c'est mon point de vue de l'intérieur.
Écoutez, il me reste à vous remercier, Frédéric, ce commentaire du livre. Enfin, il y a tellement mille choses dans ce livre, Et puis vous allez procéder à une petite dédicace maintenant pour ceux qui le souhaitent.
Qui veut,
qui est prévu. Et puis après, on prendra un congé parce que faut pas louper ce train parce qu'après, il n'y en a plus.
Ah non, non, je... et puis demain matin, j'ai des rendez-vous. Bah, merci pour votre attention. Merci, monsieur.